Bonjour, je m'appelle Jean Rottner et j'ai eu plusieurs vies. Après ma période des apprentissages, je suis devenu médecin, patron d'un service d'urgence et d'un SAMU. J'étais maire et président de région. Aujourd'hui, je poursuis ma quatrième vie dans le privé en m'offrant une autre manière de vivre. À travers ce podcast, j'ai simplement souhaité vous amener à être curieux, parfois troublé, à l'écoute de celles et ceux qui, célèbres ou non, vivent intensément leur engagement au milieu de nous tous. Je suis persuadé qu'il y a une différence entre croiser quelqu'un et le rencontrer. La rencontre est vitale. Et celles et ceux que j'ai vraiment rencontrés étaient rares, précieux. Ils m'ont marqué, inspiré, ouvert au monde, et j'ai donc décidé de vous les faire découvrir. L'important est donc là, parmi ces vraies rencontres, soyez les bienvenus.
Jean Rottner, les vraies rencontres, l'essentiel est là.
J'adore celles et ceux qui font de la gastronomie française un art de vivre. J'admire ces femmes et ces hommes qui font de l'excellence une vocation. Je suis passionné par ces professionnels qui, en quelques mots, en quelques phrases, vous emportent dans un torrent de sensations. Christelle Leroux en fait partie. Maître fromagère depuis 2019, elle dégage une intensité issue d'un travail constant, d'une exigence de tous les jours, d'une capacité à s'adapter en permanence à la demande du marché. Avec Cyril, son mari, ils forment le seul couple MOF de France. Ils se sont d'ailleurs connus sur un coup de foudre lors de leur compagnonnage à Paris en février 90 chez le grand fromager Jacques Vernier. Mariés 8 mois plus tard, en octobre, ils ont fondé, bien sûr, un foyer et une marque connue aujourd'hui à l'international, la Maison Leroux. Je suis très heureux que Christelle ait accepté mon invitation aujourd'hui. Nous allons naturellement évoquer avec elle son activité de fromagère, poussée à l'excellence, mais aussi les difficultés de ce métier, le passage du Covid, l'importance du management dans une entreprise et son épanouissement au quotidien. C'est une vraie rencontre que je vous propose, et l'essentiel est bien là. Bonjour Christelle.
Bonjour Jean.
Comment ça va?
Comment ça va? Ben, on verra au bout de ces questions comment ça va.
J'ai une première question pour toi, Christelle. Qu'est-ce que c'est le bonheur?
Alors, c'est quoi le bonheur? Tout dépend comment on l'interprète. Alors, je pense que j'ai bien commencé dans la vie. J'ai été élevée dans une famille stable. Les pieds bien ancrés en terre. Enfin voilà, c'est des bonnes fondations pour bien commencer dans la vie. Et puis ensuite, pas fait exprès, j'ai eu qu'un patron et un bon patron qui ben voilà, je pense que dans la vie on fait nos études, voilà, un peu comme tout le monde. Mais dans ma façon d'être élevée, eh bien, j'avais besoin d'avoir un travail, d'avoir un travail stable et j'ai eu des bonnes fondations. Et dans ces fondations est arrivé Cyril très vite, qui est toujours avec moi aujourd'hui et qui m'accompagne. Et ça, je pense que c'est un bon début de bonheur. Et après, faut le cultiver au quotidien.
Et qu'est-ce qui t'émerveille au quotidien, justement?
Qu'est-ce qui m'émerveille au quotidien, c'est de jamais s'ennuyer. Alors, je suis quelqu'un qui aime la stabilité, qui aime les valeurs, mais j'aime aussi être surprise. Je m'explique. J'ai une forme de routine, mais j'adore les surprises. Et je pense que si je suis toujours aujourd'hui avec Cyril, qu'on a fondé une famille, que nous travaillons ensemble, c'est parce que les surprises sont toujours au quotidien. Bonnes ou mauvaises, hein, faut les accepter.
C'est pas trop difficile de travailler avec son conjoint au quotidien?
Ce n'est pas difficile de travailler avec Cyril, pas du tout, parce que c'est quelqu'un de jouissif, quelqu'un de, j'irais, qui transporte, j'irais, le savoir-vivre, le savoir-faire et on s'ennuie jamais. Voilà, je pense que c'est ça aussi qui fait que ben ça se passe bien. Pour vous donner un exemple, eh bien on vit d'un côté de la montagne de l'autre, que ce soit les Vosges, le département des Vosges ou que ce soit le Bas-Rhin. Bien si on n'est pas le même côté de la montagne, on est capable de s'appeler 40 fois par jour.
Pour que nos éditeurs comprennent, mais on le verra dans notre entretien, vous êtes à la fois, effectivement, vous avez des caves d'affinage côté Vosges, et vous êtes à Strasbourg, où vous avez deux boutiques.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est notre quotidien depuis maintenant 25 ans. Et ça se passe bien. En fait, il n'y a pas d'ennui. On a aussi créé cette famille dynamique, ce travail dynamique en vivant et en travaillant à 85 km d'écart. Bon, les caves sont à 5 minutes à pied, mais à côté de ça, les boutiques sont à 1 heure de route et ça se passe très, très bien. Plus on voyage beaucoup à travers notre métier, on fait un métier passion. Il n'y en a pas un qui subit le métier. C'est ça aussi qui fait notre richesse.
Je le vois sur les réseaux sociaux où vous racontez souvent vos présentations de fromage, les moments riches et intenses que vous vivez. Tu parles de ces voyages, de ces rencontres. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans ces moments-là ?
Alors, dans ces moments-là, alors c'est toujours un point clé, c'est les rencontres, c'est la découverte du produit, c'est observer le travail de l'autre. Parce qu'il y a notre monde des fromagers, mais il y a aussi le grand monde de la gastronomie, le monde des artisans. Regardez aussi l'industrie, parce que bon, quand on voit la mécanique d'aujourd'hui, pour éviter d'user les hommes inutilement, eh bien, c'est de s'intéresser, c'est de se nourrir et de jamais se lasser de dire, il y a une réflexion que je n'aime pas, c'est, je sais. Je dis, c'est dommage de savoir parce que, là, vous créez l'ennui.
Est-ce que dans ta vie, tu t'es fondé parfois sur des intuitions et qui ont été de vraies réussites ?
Alors, je pense que c'est ce qui fait... Alors, les intuitions, ça, c'est ce qui fait partie des valeurs de notre couple. C'est soit on sent les choses ou on ne les sent pas. Mais par contre, quand on les sent, ça peut aller très vite. On a acheté un appartement à Strasbourg en 10 minutes. On nous l'a accepté. On a acheté...
C'est de l'intuition ou de l'audace ?
C'est de l'audace aussi. Strasbourg, c'était aussi de l'intuition parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une belle réussite et je pense que nos anciens seraient contents de voir ce que nous en avons fait. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Après, on est quand même assez réfléchi. Quand on a décidé d'avoir des enfants, il y a des choses où ça peut avoir une vraie incidence sur notre vie. Bien sûr que là, on est un peu plus réfléchi. Mais on est assez instinctif dans tout ce que l'on fait. Mais on sait se planter aussi, hein.
À part Cyril, est-ce que l'audace de quelqu'un a pu t'inspirer et te permettre d'oser ?
Alors l'audace, ce qui m'a permis de prendre des décisions d'aujourd'hui, c'est peut-être la manière dont j'ai été élevée, justement de faire toujours attention à l'autre, d'avoir ses valeurs humaines aussi, d'observer ce qui se passe. Avant de prendre des décisions, d'être réfléchi aussi.
Tu viens d'un monde agricole,
oui.
De la Sarthe. Est-ce que ces valeurs-là, elles sont toujours extrêmement ancrées en toi, fortes, et justement, elles te permettent parfois de dépasser un certain nombre de difficultés, de contraintes ?
Alors, à l'époque, je ne le savais pas, parce que jamais de la vie, j'aurais pensé être fromagère, et puis être au niveau où je suis maintenant, d'excellence. Mais j'ai toujours aimé ce monde avec de fortes valeurs parce que au jour d'aujourd'hui, ça a toute son importance parce qu'on sait d'où viennent nos aliments et je pense que ça c'est la vraie question de nos auditeurs, de nos consommateurs qui passent notre maison, c'est de comprendre comment les aliments sont faits parce qu'il y a on pense savoir mais en fait on ne sait pas et d'avoir eu ces fondations, aujourd'hui, elles me servent beaucoup et elles me serviront encore demain.
Alors, ces fondations agricoles, elles te permettent de débuter dans ce monde-là par un premier diplôme et par un choix qui est celui de devenir fromagère. Et comme on dit, tu montes à Paris pour faire un compagnonnage. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce choix, sur le choix de ton maître Jacques Vernier, qui a, je crois, beaucoup marqué et qui a été aussi un élément à la fois décisif et un peu une assurance morale aussi dans votre aventure de fromager.
Qu'il est toujours, d'ailleurs.
Ouais.
Alors, mon choix a été plutôt d'ordre privé. J'ai fait ce choix d'arrêter mes études subitement. J'étais acceptée dans une école agricole et j'ai dit non, maintenant j'arrête, je pars. Je pars, mais j'aurais pu partir ailleurs qu'à Paris. Je pense que j'ai pris le premier emploi et on dit toujours qu'il n'y a pas de hasard, mais là c'était la bonne étoile et cette étoile, elle est toujours autour de moi parce que toutes ces fondations que j'ai, tout ce savoir-faire que Monsieur Jacques Vernier m'a transmise aujourd'hui, elles sont toujours là. Et la manière dont il m'a montré ce métier, eh bien, je peux le transmettre aujourd'hui dans l'entreprise. Et j'ai eu la chance, bah, justement, de rencontrer Cyril. Donc, nous avons tous les deux la même valeur. Nous avons tous les deux la même façon de transmettre, de montrer aux jeunes, de dire, bah, voilà, c'est comme ça qu'il faut travailler. Et de perdurer ce que nos producteurs nous mettent à disposition aussi.
Jacques Vernier, c'est un peu le Bocuse du fromage, c'est comme ça qu'on l'appelle. Comment il vous a façonné? Comment est-ce qu'il t'a façonné toi personnellement? Et finalement, comment il a façonné votre couple? Parce que c'est important. Christelle et Cyril sont un peu indissociables l'un de l'autre. Mais toi, plus personnellement, qu'est-ce qui t'a marqué chez lui? Qu'est-ce qu'il t'a appris? Qu'est-ce qu'il t'a transmis?
C'est rigolo, hein. T'as été chercher loin les informations, parce que le Bocuse du fromage, c'est mon...
c'est ton expression.
C'est mon expression. Ouais, parce que je trouve que... Enfin, c'est un homme... Bon, il y travaille aussi avec son épouse, hein, Jeannine Vernier, mais je trouve que quand on est passé dans sa maison, on a vraiment des valeurs. On sait vraiment comment choyer et vendre le fromage. Et surtout, remettre au centre de tout, et je pense qu'on perd un peu ce genre de choses aujourd'hui, c'est remettre le client à sa place. Alors, je ne dis pas le réprimander, hein, pas du tout. Quand on dit remettre les clients à sa place, qui retrouve toute son importance. Surtout aujourd'hui, à l'ère d'Internet, où là, il y a une vraie nécessité pour entretenir ton point de vente, et bien justement, d'avoir toutes ces valeurs qui a permis de faire qui je suis aujourd'hui, eh bien, elles me servent deux fois plus. Et puis, Jacques Vernier, voilà, c'est des grandes valeurs, c'est aimer la nature, déjà à l'époque, c'est aimer les producteurs, c'est aimer manger du fromage, parce que c'est quand même ça notre métier à tous les deux, et au jour d'aujourd'hui, sur 26 MOF, eh ben, il y en a quand même 4 qui sont sortis de chez lui. MOF, meilleur ouvrier de France, c'est pas rien, ouvrier. Et ça, faut vraiment pas oublier ses valeurs.
Et j'ai vu dans une interview que tu emploies des mots forts quand tu parles justement du fromage. Il faut lui parler, il faut l'aimer... Il faut l'affiner, et tout est dans ce terme d'affinage finalement, c'est la connaissance, c'est le suivi, c'est lui permettre de grandir pour être sorti de la cave au meilleur moment. Tout ça, c'est vraiment ce compagnonnage chez Vernier qui t'a formé et qui vous a permis de vous lancer également tous les deux.
Alors tous ces mots très forts et puis qui permet à tous les consommateurs d'avoir des beaux et des bons fromages, eh bien chez Jacques Vernier, c'était pratiquement une des seules boutiques à l'époque, donc ça c'est de 89 à 92, c'était pratiquement une des seules boutiques parisiennes où on faisait de l'affinage. Alors c'est quoi l'affinage? Parce que c'est un mot, je trouve, qu'on est en train de galvauder, c'est comme le mot cave. Tout le monde dit qu'il y a une cave, maintenant on voit des caves partout. Cave, c'est déjà un endroit où l'on conserve le fromage et continue à évoluer pour être servi au moment le plus opportun. Mais là, c'est pas que le mettre comme dans un frigo, c'est vraiment le choyer, le chouchouter et continuer tous les soins qui ont été apportés par les producteurs. Avec une humidité, avec une température, avec un oxygène bien particulier, voilà, une ventilation. Et si ces trois éléments ne sont pas respectés et qu'on n'a pas respecté la famille, bah vous pouvez avoir un bon produit au départ, vous n'en ferez pas quelque chose de bon à la fin. C'est un peu comme les cuisiniers, mais d'une autre façon. La seule chose, c'est que si c'est pas une réussite, vous le voyez pas tout de suite. On peut avoir des dégâts dans une semaine, dans deux semaines, dans deux mois, et là, c'est irrémédiable. Alors qu'un cuisinier, c'est raté, tu le sais tout de suite. Voilà, c'est ça, c'est vraiment les valeurs que Jacques Vernier nous a montrées. Et puis après, t'as une sensibilité. Moi, j'ai toujours envie de dire, c'est comme dans la vente, tu l'as ou tu ne l'as pas. L'affinage, tu l'as ou tu ne l'as pas. Tous les matins, nous vivons à 5 minutes à pied des caves, et ça c'est très précieux. Tous les matins, on passe la porte de nos caves et tous nos sens viennent en éveil. Je m'explique, voilà. Alors, on essaie de ne pas être enrhumé, hein, parce que ça, c'est nécessaire. Merci le Covid, hein, il n'a pas fait de dégâts à ce niveau-là. Et là, pour le coup... Eh bien, tu rentres, t'as pas besoin de machine. Tu sais si la mécanique, elle fonctionne bien, si l'alchimie, elle se fait bien, et si tout ça va bien, bah, tu te dis, voilà, t'as fait un premier pas pour que les fromages soient dans de très bonnes conditions, et après, bah, c'est à nous de bien surveiller. il y a des moyens techniques aujourd'hui qui font qu'on arrive vraiment à reproduire ben, les mêmes ambiances que nos producteurs, parce que nos fromages viennent de France, mais aussi viennent de beaucoup plus loin, et nous avons beaucoup de familles au sein des caves, et là, pour le coup, il faut vraiment faire attention. Puis bon, il y a quand même un gros paquet d'argent dans les caves, et au jour d'aujourd'hui, alors entre l'argent et puis faire attention de ne pas jeter, voilà, c'est tout ça, on fait partie, et c'est surtout, prendre du plaisir quand on va les mettre sur notre étal et après, vous les aurez dans votre assiette.
Si on reprend rapidement votre histoire, formation donc chez Jacques Vernier, et ensuite début d'une aventure, prise de risque. Cette prise de risque, c'est effectivement déjà de quitter celui qui vous avait formé. Et finalement, vous débutez dans les Vosges. Vous débutez dans les Vosges. Avec la tournée dans les villages où vous êtes un peu grossiste, fournisseur des restaurateurs, des commerces. Vous ne vendez pas le fromage directement.
T'es bien renseigné, hein. Ouais. Pourquoi les Vosges ? C'est parce que souvent on pense d'ailleurs qu'on est vosgien et nous on aime beaucoup les Vosges et on aime beaucoup l'Alsace. Voilà, c'est nos deux régions d'adoption. Eh bien, quand on a décidé de partir chez Jacques Vernier, il n'y avait pas possibilité d'évolution, donc on s'est dit, faut trouver quelque chose. Alors, c'est soit on devient un salarié, mais c'était pas forcément ce que nous avions envie de faire. Et Cyril et moi, je suis pas sûre que j'aurais suivi ce chemin si je l'avais pas rencontré, mais je vis avec quelqu'un qui aime beaucoup prendre des risques. Et c'est pas l'argent qui le domine. Voilà, c'est l'histoire. Je pense que c'est un petit peu masculin, voilà, cet effet prise de risque. Et moi, je l'ai suivi et je l'ai accompagné. Et il s'est avéré que ce soit d'abord les Vosges. On reprend une affaire au plus bas niveau. Donc, effectivement, tu arrives dans une région que tu ne connais pas, tu connais personne. Et tu arrives avec tes valeurs parisiennes. Et là, eh bien, tu retombes sur le plancher des vaches, donc on retourne en arrière avec nos valeurs et on fait attention à ce que l'on fait, on respecte les gens qui sont autour de nous, les clients, et on observe. Alors, on fait pas que observer, hein, on travaille aussi, parce que on n'était pas dans un monde de bisounours, hein, quand tu te lances comme ça, que tu démissionnes et que tu décides de partir dans une région que tu ne connais pas. Et la seule chose où on avait une forme d'ancrage, c'était le fromage. Ça, on en était sûr. On savait travailler la matière. Et là, tout doucement, on fait les tournées de Chine, ce qui se fait encore au jour d'aujourd'hui et qui se redéveloppe. C'est qu'on prend le camion et on fait des tournées de village en village, de maison en maison. Et ça, on a fait ça presque 3 ans. Des tournées aussi de professionnels, qui a été un petit peu chahuté parce que c'était le tout début des grossistes. Et là, pour le coup, au niveau financier, il a fallu prendre d'autres chemins. Et comme, on était encore des aventuriers, on s'est dit, on peut pas rester comme ça. Et c'est surtout que nos valeurs de départ, c'était pas forcément d'exprimer notre métier de cette façon-là. Et là, on décide de créer 10 marchés la semaine. Nous étions que 2.
Vous passez finalement de la distribution,
oui,
à la vente
dans les marchés. Sur les marchés, et c'est surtout... On étoffe notre gamme et on redonne une qualité, la qualité que, ou là où nous avions, où nous nous étions arrêtés à Paris. Parce que les fromages étaient un petit peu plus industriels quand on a repris l'entreprise. C'était plus axé pasteurisé. Enfin, c'était pas ce qu'on voulait exprimer. C'était pas le métier comme on le voyait, en fait.
Mais Christelle, à ce moment-là, ça veut dire aussi que vous reprenez contact avec les producteurs, avec, oui, vous remettez en place tout un réseau. Donc vous étiez un petit peu éloigné en faisant de la distribution pour revenir vers votre métier originel.
Exactement. Et là, pour le coup, on peut revenir à M. Vernier, parce que M. Vernier nous avait quand même amené une forme de transparence. Il nous avait donné un carnet d'adresses, parce qu'on est parti un peu comme deux bandits. Mais après, il s'est avéré qu'il m'ait demandé de revenir pendant 2 mois parce qu'il a eu un accident. Et du coup, les rapports ont complètement changé quand il a su que nous étions installés dans le même métier que lui. Et là, il nous a ouvert son carnet d'adresses.
Il était heureux de votre succès.
Exactement. Puis là, aujourd'hui, on n'en parle même pas, quoi, parce qu'il est toujours de ce monde et il est plus qu'heureux. Et là, pour le coup, on démarre vraiment une autre aventure que l'on fait toujours au jour d'aujourd'hui.
Avec un témoin de bonne moralité, votre maître de compagnonnage.
Exactement. Et puis après, voilà, on exploite cette façon de faire pendant 6 ans. Et puis, dans nos amitiés très profondes que nous avions créées dans l'Est, il y a Denis Boulanger qui n'est plus là aujourd'hui. Et Denis nous a toujours dit, bah voilà, Loro. Loro.
Qui est Denis Boulanger ?
Denis Boulanger, c'est un de nos amis qui avait un très bel établissement à Saulsur. Et établissement familial, et il faisait partie de nos tournées de professionnels. L'amitié a vraiment grandi. Et là, on y allait 2 fois par semaine, et Denis nous dit, bah, si tu dois t'installer, parce qu'il avait compris notre façon de travailler, il avait compris les valeurs que nous voulions défendre auprès de nos producteurs, et il me dit, bah, tu ne peux pas continuer comme ça, tu ne vas pas t'échier, enfin comme... pas t'échiner, mais tu vas pas t'user à faire ce métier en étant sur les 4 chemins. Ça serait bien qu'à un moment donné, tu reprennes un emplacement fixe. Et moi, je te dis, ça sera la rue des Orfèvres. C'est cet emplacement-là et pas ailleurs. C'est ni Nancy, ni Mulhouse, ni Colmar.
La rue des Orfèvres, c'est une rue assez exceptionnelle à Strasbourg, au pied de la cathédrale, dans laquelle il y a un certain nombre de commerçants de très très belle qualité. Et il y avait une enseigne de fromage.
Alors oui, il y avait une enseigne de fromage. Elle avait déjà 90 ans quand on l'a reprise.
C'était une institution.
C'était une institution et elle ne s'appelait pas encore Maison Loro. Elle s'appelait Au Vieux Gourmet. Vous en parlez aujourd'hui, j'irais à nos Strasbourgeois. J'aime pas utiliser le mot vieux, mais voilà, nos anciens Strasbourgeois. Eh bien, le Vieux Gourmet, c'était une institution, et j'espère qu'on l'a bien valorisé et qu'on l'a fait briller.
Moi, je m'en souviens très bien. Quand j'étais étudiant, je regardais et on s'offrait de temps en temps un petit peu de fromage et on allait le chercher au Vieux Gourmet, mais le Vieux Gourmet a bien changé aujourd'hui.
Le Vieux Gourmet a bien changé. Alors là aussi, quand on a pu... Alors, on a vendu notre affaire précédente dans les Vosges parce que, comme tout projet, on peut pas tout garder parce qu'il faut pas oublier... Bon, entre-temps, on avait quand même embauché une vendeuse, mais nous étions que 3. Et là, pour le coup, il n'y avait pas de possibilité de tout exploiter. Donc, on vend notre affaire dans les Vosges, mais on continue à y habiter. Et aujourd'hui, ça a toute son importance. Et là, on décide de faire le grand saut. On remet tout sur la table. Parce que j'ai un mari qui n'est pas joueur, mais pour les affaires, c'est un peu le cas. Et à chaque fois, on remise tout.
Au début de notre entretien, on parlait d'audace, de risque. Là, c'est d'intuition. C'est un peu les trois en même temps, là.
Oui, tout à fait. Comme quand on a décidé de démissionner de Paris pour venir dans les Vosges, là, à nouveau, on a tout remisé sur la table, mais avec une gamine en plus dans le projet, parce qu'on avait notre première fille qui était arrivée depuis 2 ans, et là, on était quand même des parents réfléchis, on fait pas n'importe quoi, et on décide d'acheter le Vieux Gourmet. Et là, le projet, comme tout projet financier, quand tu as rien, eh bien, faut se battre, et on peut dire merci les établissements bancaires, parce qu'ils nous ont fait confiance, et déjà là, ils ont compris qu'on avait une valeur de travail qui aujourd'hui pèse beaucoup dans la balance par rapport à ce que l'on fait. Et puis le projet démarre, voilà, on transforme tout, on rase tout, on part d'une feuille blanche, et puis on s'est dit, c'est un pari. On reprend la vendeuse, qui parle très bien allemand et alsacien, parce que nous ne parlons ni l'un ni l'autre, ni allemand ni alsacien, mais on avait bien compris qu'il ne fallait pas chahuter les Alsaciens, même s'ils nous connaissaient, ils nous voyaient déjà dans leur paysage, par le biais de nos tournées. Voilà, il fallait pas trop chahuter. Mais après, on a eu des bons parrains quand nous sommes arrivés à Strasbourg.
Des restaurateurs reconnus.
Oui.
Vous pouvez en citer quelques-uns?
Alors, Antoine Westermann et surtout Émile Jung.
Jung, restaurant Le Crocodile.
Exactement.
Westermann, c'est le Bureau Rissel.
Et donc, et puis quelqu'un d'autre aussi. Qui n'exploite plus aujourd'hui, et c'était le patron des 12 apôtres. Et là, pour le coup...
Bernard Hauptmann, c'est ça.
C'est ça, tout à fait. Et là, ces 3 personnages nous ont bien, bien intégrés. Et il y avait aussi Christophe Meyer, la pâtisserie Christian. Voilà, je dirais que c'est ces 4 personnages qui nous ont bien intégrés.
Pour les non-strasbourgeois, c'est juste 4 institutions extrêmement connues d'un point de vue gastronomique dans la capitale européenne.
Et qui sont toujours là.
Tout à fait.
Et là, pour le coup, ces 4 personnages, nous avaient déjà intégrés. Et nous ont élargi leur cercle et bah, le pari a été gagné parce qu'au jour d'aujourd'hui, bah, c'est un vrai, vrai succès. C'était une affaire vieillissante, c'était une affaire hyper bien placée et malheureusement, bah, je pense qu'il y avait un manque d'envie des gérants du Vieux Gourmet et bon, je pense qu'on l'a bien réveillé.
Et réveillé aussi avec de nouvelles techniques de vente qu'on ne connaissait pas forcément ici en Alsace d'ailleurs, puisque le fromage est plutôt dans ce qu'on appelle la vente arrière. Et vous avez fait une vente avant, comme Jacques Vernier, vous avez appris à le faire.
Oui, c'est assez émouvant hein, de s'entendre parler à travers tes mots, Jean. Hein. C'est assez perturbant même. Oui, oui, tout à fait, parce que c'est rare qu'on me parle de vente avant et de vente arrière.
Ça se voit quand on rentre dans votre boutique, les produits sont extrêmement bien présentés, il y a les odeurs, il y a des créations également de la Maison Leroux qu'on ne trouve que chez vous en termes de fabrication et de spécialités fromagères. Tout cela, ça a dû perturber là aussi les habitudes de vos clients. Comment est-ce que vous avez accompagné cette transformation? Comment est-ce que vous êtes adapté finalement à la demande de votre clientèle?
On a pas tant bouleversé que ça. Bon, déjà l'agencement, oui, on l'a bouleversé. On a remis quelques produits qui sont faciles à reconnaître pour les clients. Donc on est déjà parti sur les appellations d'origine protégée françaises. On a mis quelques fromages étrangers. Puis après, il y avait quelque chose qu'il fallait garder, qu'on n'a plus aujourd'hui parce que bah, les clients n'en veulent plus. Mais c'était les boulettes de Roquefort et les boulettes de Mimolette. Je ne sais pas si tu te souviens, Jean, c'était des petites boulettes oranges et des petites boulettes vertes. On aurait cru des petits bonbons fromagers. Et bien ça, on en a vendu des milliers. Et puis les tranches, les fromages en tranches. Et ça, on a gardé. Voilà, on a fait cette liaison. Et on a fait cette liaison avec Patricia, notre première vendeuse ici, qui était la vendeuse de Monsieur et Madame Huck, qui étaient les gérants du Vieux Gourmet. On n'a pas tout cassé. On n'est pas arrivé avec nos gros sabots de dire allez hop de Parisiens. Non, on a fait vraiment attention à ça parce que déjà qu'on avait balayé l'agencement, il fallait surtout pas les frustrer. Il fallait surtout que les clients quand ils passent la porte, ils aient confiance et qu'on les laisse s'approcher de nous et de dire ben voilà si je veux être servie par Christelle, par Cyril, par Patricia, ça ne nous pose aucun souci. Et puis ça s'est fait tout doucement et ça s'est fait très très vite.
Vous avez connu aussi des échecs, puisque vous décidez d'ouvrir un point de vente à Saint-Dié. Là, on est dans les Vosges et ça dure 6 ans. Et au bout de 6 ans, stop.
Ouf. Alors, je ne savais pas si je devais en parler. Eh bien, on va en parler parce que les échecs sont...
C'est toujours profitable,
ah,
les
mais
échecs. C'est toujours profitable.
Dans tous les échecs... Alors, moi, j'en ai eu un petit peu plus que Cyril par
la
suite.
On y reviendra aussi.
Et dans tous les échecs m'ont permis d'avancer. Et là, encore une fois, l'instinct, l'audace, on s'est dit, bah voilà, si ça fonctionne à Strasbourg, pourquoi ça ne fonctionnerait pas à Saint-Dié, vu qu'on avait tout vendu, on était connus. Eh bien, comme quoi, dans sa paroisse, nous ne sommes pas forcément les rois. Enfin, je sais pas, il y a une expression comme ça que l'on dit toujours quand on est chez soi. C'est pas pour ça que ça fonctionne. Et je pense que avec Dessy, on ferait peut-être des meilleures choses. Mais là, ça n'a pas été bon du tout. Et on a stoppé l'hémorragie. On a arrêté à 6 ans parce que c'était un 3-6-9 au niveau du bail et on a dit on arrête.
Est-ce que ça vous a déstabilisé ça à un moment donné ou est-ce que au contraire ça a été plus encore de rage au ventre avec l'envie de réussir, de vous relancer parce que une crise n'est pas davantage finalement une fin qu'un commencement, c'est avant tout un basculement et une remise en question et une possibilité de repartir de plus belle vers l'avant.
Alors, chez Leroux, on n'est jamais aussi fort que dans les états de crise. Alors, j'ai une chance inouïe, c'est qu'on est très bien mariés, on est passionnés tous les deux et on a une très bonne santé. Et là, si on a ces trois choses-là, on peut gravir beaucoup de choses. Et c'est ce qui nous a permis. Alors oui, hein, ça fait mal, le financement. Paix d'argent n'est pas mortel. On a perdu de l'argent. On a tout payé ce que l'on devait. On peut dire merci à nos fournisseurs, à nos producteurs. Ils nous ont fait confiance. On a pris moins de salaire. Et puis, on a tout payé ce qu'on devait. Et au jour d'aujourd'hui, on est plus que fiers, mais on n'a pas peur d'en parler parce que je crois que le français n'aime pas trop parler des échecs parce qu'il a peur d'être moqué. Et je pense que dans les pays anglo-saxons, on n'a pas peur de ce genre de choses.
Au contraire, c'est une forme de réussite.
Exactement. Enfin, nous, on le prend comme ça.
Qu'est-ce que ça vous a appris, finalement, à Cyril et à toi, cet échec ?
Alors, ça nous a appris, ça nous a renforcés. On a redéveloppé encore plus la maison Loreau, rue des Orfèvres à Strasbourg. Peut-être qu'on se reposait un peu sur nos lauriers, on s'est dit, ben voilà, deux magasins, tout va bien, on peut confier à nos collaborateurs. Et là, tu te remets le pied à l'étrier, mais c'est ce qui nous a toujours poursuivi, qui nous poursuit encore aujourd'hui. Hein. Je pense que jusqu'à temps qu'on arrête, ça va être comme ça.
C'est à ce moment-là que vous décidez peut-être aussi de passer au concours de MOF, de meilleur ouvrier de France.
Alors, on a arrêté en... Je sais même plus quand est-ce qu'on a arrêté, parce qu'on s'est installé en 98 et on a démarré le magasin en 2000. En 2000 et 2006, on est sorti. Cyril est devenu meilleur ouvrier de France en 2007. Non, c'est pas tout de suite.
Pas tout de suite.
Non, pas tout de suite. On a arrêté la boutique et puis... À Strasbourg, ben voilà, en fait, j'avais nos collègues, la famille qui me disaient, ben maman, tu devrais faire ce concours. Vu que nous sommes tous les deux passionnés, on est issus tous les deux de la même formation, ben j'ai dit, je vais essayer. Et j'essaye en 2010, qualification avec succès. Je vais en finale. Et je pense que là, je l'ai pas bien interprété. Je pense que j'étais dans une forme de révolte, de bagarre. Pas contre moi-même, mais contre Cyril. De dire, ben voilà, on a monté cette boîte tous les deux, nous en sommes là, tous les deux ensemble, et pourquoi pas moi d'avoir ce titre ?
Parce que lui, il l'avait déjà.
Lui, il l'avait déjà, il l'avait en 2007, et il l'a eu du premier coup. Je pense que j'étais dans une forme de bagarre. Et ben là, ça s'est pas bien passé, et j'ai pris un sacré coup sur la tête. Ouais. Mais, encore une fois, bien entourée de la famille, de mes collaborateurs, et puis ce qui me sauve aussi, c'est de toujours en parler, c'est de pas garder ça pour soi-même, parce que je pense que d'évacuer, ça je t'apprendrai pas, je pense que c'est le meilleur des médicaments en fait.
Tu en as parlé avec Cyril de cette sorte de revanche que tu avais à prendre par rapport à lui.
Oui. Alors pas tout de suite parce que je pense que dans les échecs comme ça tu apprends à te connaître aussi. Alors ça si dans toutes les formes de concours, quoi que ce soit, on apprend à se connaître. Et je pense que quand t'es élevé dans un monde agricole, que tu es dans une façon dans un certain milieu, parce que bon, moi, mon papa était ouvrier. Voilà, je pense que tu fais les choses sans te poser de questions. Tu te dis, je suis là pour aller au travail le matin. Et à aucun moment, tu te poses et tu te dis, mais cet échec, est-ce que c'était bien pour moi ou pas bien? Comment je me relève de ça? Non, j'ai appris à me connaître. Mais je me suis entourée de gens pour... qui m'ont permis d'exprimer pourquoi j'ai été à cet échec. Et là, ça remonte très loin parce que ça remonte pas au niveau professionnel, ça remonte au privé. Tout ce que j'avais, enfoui du passé avant de travailler, fait que ça a provoqué une partie de mon échec de 2011.
Et tu repars au combat.
Et je repars au combat quelques années après. Mais entre-temps, j'ai soigné cet échec. On a refait le magasin pour la deuxième fois au centre-ville de Strasbourg. Et dans la foulée, on a créé les caves d'affinage, les fromages de l'abbaye, à 5 minutes à pied de la maison, à Moyenmoutier. Tout ça, par le travail, fait que ça a été la meilleure des thérapies. Enfin, je nourris pas ta paroisse, hein, on n'est pas trop des marchands de médicaments, enfin des consommateurs de médicaments. On est plutôt des consommateurs de travail. Et j'ai beaucoup soigné mes échecs par le travail. Par les rencontres, voilà. C'est comme ça que je l'ai soigné. Et puis, par les nouveaux projets. Et là, on décide de construire les caves d'affinage. Parce que c'était une vraie nécessité. Parce que la deuxième rénovation de la rue des Orfèvres, on a eu un pied de développement qui n'était pas prévu. Il y a des clients qui nous ont découvert et là, il y avait une réelle urgence. Parce que sur notre vitrine, il est marqué deux phrases importantes. La première, c'est meilleur ouvrier de France. Mais la deuxième, c'est artisan fromager affineur. Et tout le monde n'est pas fromager affineur.
Pour bien comprendre le rôle d'un affineur aujourd'hui, c'est que vous passez un accord finalement avec un producteur, vous prenez en charge ce qu'il produit, donc ses fromages, et vous accompagnez à maturité ces fromages jusqu'à la vente. Et aujourd'hui, vous êtes pas simplement dans la vente locale, dans la vente de vos boutiques, mais vous êtes également dans la vente à l'international, vous êtes dans la vente par Internet, vous avez réussi à développer toute une forme de service. Mais le premier service, c'est celui qui se tourne vers le producteur et qui permet justement une qualité de fromage parce que la cave d'affinage est là.
Exactement. Oui, parce que nous sommes très peu en France et ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il n'y a rien qui nous protège dans notre métier de fromager dans l'ensemble du monde. Rien n'est protégé quand n'importe qui peut marquer fromager affineur. Mais n'est pas fromager qui veut. Donc à nous d'amener la transparence, à nous de bien expliquer notre métier. Quand on peut amener nos collaborateurs, nos clients à la production et dans notre outil de travail, leur dire voilà, le fromage, c'est pas de déballer des caisses et puis de les mettre dans la vitrine. Il y a tout un travail en amont qui est très très important et puis une vraie confiance avec nos producteurs. Alors, on travaille avec des producteurs, on travaille aussi avec des grossistes, on travaille aussi avec des laiteries. Voilà. Là aussi, on élargit notre relation parce que au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que notre métier, il va pas disparaître, hein, surtout pas, mais il faut y faire attention parce que sinon, on joue pas ce rôle, justement, de confiance avec la production, eh bien, ça va être compliqué demain. Soit on aura tous les mêmes fromages, ou alors il n'y aura plus d'agriculteurs qui reprendront les exploitations. Parce que le vrai problème, il est là. Si on va amener une diversité du fromage, ou de l'ensemble de l'alimentation, eh bien, c'est nous les distributeurs, c'est nous les affineurs, c'est nous les consommateurs aussi, parce qu'on est consommateurs aussi, il ne faut pas l'oublier, et bien faire attention à tout ça.
C'est pour ça que vous accompagnez aussi cette démarche par la création de spécialités spécifiques de la Maison Leroux. Je crois plus de 25 spécialités, c'est bien ça?
Oui, beaucoup, beaucoup de spécialités selon les saisons. Alors, on a d'abord des affinages maison, on fait des transformations, on fait des créations par le biais des pâtisseries fromagères, j'aime beaucoup ce terme. Alors ça, c'est plus en boutique, on fait des brie aux truffes, des brie aux fraises basilic, des camemberts au calvados. Et après, au cave, là, c'est plus dans le produit brut. On rentre des fromages très jeunes, on leur amène, soit on continue à les soigner avec tout simplement de l'eau et du sel, ou un brossage, retournement, ou on amène eh bien, d'autres accessoires d'affinage par le biais des alcools, des herbes, des épices. Et là, à ce moment-là, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai un collègue fromager aussi, meilleur ouvrier de France. Il dit, voilà, chez les Leroux, ils costumisent le fromage. On le costumise. Alors, c'est un mot qui pourrait correspondre plus à de la carrosserie, mais c'est quelque part, c'est ça, parce que juste à la reconnaissance, on sait que le fromage vient de la Maison Leroux. Et ça, je me dis, quelque part, c'est gagné, parce que dans les étals, quand tu arrives à reconnaître un fromage Maison Leroux autre que dans la Maison Leroux, c'est gagné. C'est gagné quelque part.
C'est une marque. Derrière la marque, c'est la qualité et l'excellence. Tu as beaucoup parlé de l'amont, de la production, un peu de l'aval avec la revente, mais c'est plutôt sur un axe professionnel. On peut parler de la clientèle et du consommateur aussi, parce que je peux témoigner de cela quand on vous retrouve dans un buffet officiel, dans une manifestation publique. Vous ne contentez pas simplement de disposer le fromage, déjà de manière très élégante, mais vous êtes derrière, vous le distribuez, vous l'expliquez, vous le faites aimer à celles et ceux qui fréquentent ces endroits.
Oui.
Et c'est important.
Mais tout à fait, parce que...
C'est une forme d'éthique du fromage que vous développez.
Exactement. Voilà, on a été grossiste, on a eu tout cet amont qui, bien encore une fois, bon, nous ont permis de dire... toutes ces fondations font qu'au jour d'aujourd'hui... On a pris des chemins un petit peu différents dans la distribution, mais on s'est surtout concentré sur les clients particuliers. J'ai envie de dire la dame qui passe notre porte tous les jours, le consommateur particulier, dire ben voilà, je passe la porte, j'ai envie de me faire plaisir. C'est vraiment là-dessus. On a encore beaucoup de clients professionnels, mais à côté de ça, c'est donner une accessibilité du fromage à tout le monde. Et ça, c'est vraiment nécessaire. Alors, on le fait par le magasin, on le fait par Internet, on le fait par les marchés. Et quand on arrive à le faire, et ça, c'est de plus en plus, parce que bah, le fait qu'il y ait deux meilleurs ouvriers de France dans la maison, bah, il est clair que là, les clients ont envie de nous rencontrer. Et quand on peut sublimer le travail de nos producteurs à travers des buffets, bah, ça, c'est juste fantastique. Parce que là, pour le coup, le consommateur n'a pas le même rapport que quand il vient en boutique. Vous servez le client, vous lui conseillez, mais vous lui mettez dans son cabas. Alors que là, le rapport avec le consommateur, quand vous l'avez face à vous, il prend le fromage et le déguste immédiatement. Et là, c'est à vous de jouer un vrai rôle, de dire, ben, vous voyez, alors si vous le connaissez, c'est encore plus facile, de dire, ben, vous voyez, je vous l'ai proposé la dernière fois, il vous faisait pas forcément envie, parce que ben, le client, c'est toujours un peu la biffe et le moine-main. Alors que quelquefois, pour le fromage, eh ben, c'est pas toujours le cas. Et là, ils se sont dit, bah, waouh, j'adore ce produit. Et là, bah, tu mets tout ton savoir-faire en action. Et là, à ce moment-là, eh bien, le client le voit différemment. Mais ça, c'est tout notre travail, tout notre savoir-faire, toute notre histoire fait que, bah, aujourd'hui, on a cette jouissance de pouvoir exprimer notre métier différemment.
Alors, comment est-ce que tu as dégusté l'annonce de ton nom comme meilleur ouvrier de France?
Alors, je l'ai dit. Alors, comment je l'ai interprété? Alors, déjà, ça s'est fait d'une façon particulière. Parce que, en 2018, j'ai Cyril qui décide de m'inscrire avec ma plus grande des filles, sans m'en rendre compte. Voilà.
Il aime bien les surprises, Cyril.
Ouais, il aime. Ben voilà, encore une. Et puis, il y a eu un petit peu de chambardement dans le concours, fait qu'il a démarré plus tard que prévu. Et du coup, je fais des rencontres lors d'une manifestation. Et là, on me dit, ah, mais Christelle, au fait, je te revois dans 15 jours. Je crois que tu vas passer le concours. J'ai dit, pardon. J'ai dit, non, il n'est pas question de repasser le concours parce que notre concours se fait en deux temps. Il y a les qualifications et la finale. Et là, on me met cette petite musique et pour le coup, je pars pour les qualifications 15 jours plus tard. Un mois après, je reçois les résultats, je suis qualifiée. Ça m'a mis un petit peu de chambardement dans ma vie professionnelle parce que bah, le concours... En fait, j'ai été qualifiée en novembre et la finale s'est retrouvée en février 2019. Sachant que bah, y a eu un petit peu de chambardement aussi dans la famille et dans l'entreprise à cette période. Et là, pour le coup, 2019, je passe le concours avec les différentes épreuves qui sont demandées. Et à l'annonce... Alors, je l'ai pas perçu de la même façon qu'en 2015 ou en 2011. Parce qu'on n'a pas parlé de 2015, mais là aussi, c'était un échec. Mais je ne l'ai pas interprété de la même façon non plus. Je pense que je m'étais trop armée, je pense que je me suis crue pour une femme politique. Désormais, je saurais pertinemment que je ne serai jamais une femme politique. Je dirais rien. Mais je l'ai. Voilà, toutes ces deux leçons m'ont permis d'interpréter 2019 différemment. Et là, là, l'annonce de mon nom, eh bien, je ne me suis pas levée tout de suite. Je m'explique dans tout ça. Parce que Cyril et Marie m'ont inscrite sous mon nom de jeune fille. Et comme je suis mariée depuis fort longtemps, mon nom de jeune fille, je l'utilise pratiquement plus, quoi. C'est pas que je l'ai oublié, mais c'est que je suis intégrée, Loro est plus sous mon nom de jeune fille. Ben, je me suis pas levée tout de suite parce qu'il y a un monsieur, en plus, qui s'appelait pratiquement comme moi. Mais le nom monsieur ou madame, je l'ai même pas entendu, j'ai surtout entendu ce nom. Et il y a un moment, tout le monde me regarde, parce que de toute manière, comme il n'y avait qu'une femme, c'était fatalement moi. Et là, je me suis dit, mais c'est juste pas possible. Je suis devenue un des meilleurs ouvriers de France. Et là, bon, avec tout ce que ça peut intégrer, hein, c'est hyper fort. Mais si j'avais été mof en 2011 et 2015, je l'aurais pas perçu de la même façon.
Là, on est en 2019. Février 2019.
Oui.
Et il faut dire à nos auditeurs que le 11 décembre 2018, à Strasbourg, un attentat terroriste qui fait plusieurs morts et une de tes filles,
oui,
qui se trouve juste en face du magasin, sous une porte cochère, bien, est atteint par les balles du terroriste. Donc, tout ça, ça doit être à un moment donné des moments de libération, mais ça a été aussi pour toi des épreuves entre les qualifications et la phase finale qui sont extrêmement intenses. Je me souviens en avoir discuté avec toi. C'est vrai que ça vous a atteint dans votre chair, dans votre vie familiale de manière extrêmement forte.
En fait, il n'y a plus rien qui a d'importance. Les qualifications, je n'y pensais plus. J'étais surtout là pour notre fille, pour la famille et puis pour nos équipes. Parce que bon, Jeanne n'était pas toute seule ce soir des attentats. Et là, pour le coup, encore une fois, nos valeurs ont pris toute leur importance. On a un couple qui est très très fort. Et là, à ce moment-là, on s'est dit, ben, nous, il ne faut pas qu'on lâche la rampe, que ce soit Cyril ou que ce soit moi. Eh bien, on a dit, ben, si on ne montre pas l'exemple, ben, y a tout qui va s'écrouler. Mais que ce soit la famille et que ce soit l'entreprise, tout va s'écrouler. Et tout est tenu de l'un avec l'autre. Et là, tu te dis, bon, eh bien, on y va. On y va, on fait Noël, enfin, on finit ce mois de décembre, et puis, moi, je n'étais pas sortie depuis les attentats. En fait, je suis restée dans l'entreprise, et passe les fêtes, et là, j'ai dit en janvier, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais aux qualifications ou je n'y vais pas? Et là, comme j'ai appris à me connaître, à travers les années et à travers les deux derniers concours, eh bien, je me suis dit, ben voilà, la meilleure des thérapies, c'est peut-être... Et puis d'enlever aussi ce négatif que nous avions sur la maison. Parce que quand tu es stigmatisé, Maison Loro, là où il y a eu l'attentat et que la fille Loro a été touchée, et que tu as les journalistes qui viennent toujours pour ça, tu as un moyen de pouvoir balayer. Et ce moyen de balayer, eh bien, ça a été le concours de meilleure de France. Et ce qui fait que je ne l'ai pas du tout interprété de la même façon. Donc, j'ai travaillé de façon acharnée pendant 2 mois.
Tu t'y es préparé de manière différente, préparateur. Exactement. Physique, accompagnement psychologique.
Tout à fait.
Et ça en fait... C'était pour toi les Jeux Olympiques.
Exactement. Exactement. Et puis, je me suis dit, là, il faut vraiment que j'y arrive parce que c'est le seul moyen qui pourra amener une autre dimension à ma vie future. Alors, j'ai d'abord pensé à moi, et puis après, j'ai pensé à ma famille, et j'ai pensé à mon entreprise, et au couple aussi. Voilà, il fallait vraiment arriver à balayer. Et jusqu'à ce que la sonnerie de la dernière épreuve sonne, j'ai pensé à Jeanne. J'ai dit, non, non, il faut que tu réussisses pour balayer tout ça. Et ça a balayé.
Et tu as réussi, c'est fantastique quand même, comme récit, on est 5 ans plus tard. C'est une page qui va se tourner bientôt avec le procès.
Oui.
Je crois que c'est là aussi une étape importante pour vous tous.
Oui, c'est une étape. Bon, il y a eu les commémorations 1 an après les attentats. Ça a été vraiment bien organisé par la ville de Strasbourg et et puis l'État français parce qu'on oublie de les remercier et nous. Enfin, moi, je suis tellement fière d'être française. Je pense que beaucoup de Français sont pas assez fiers d'être français. Je défends beaucoup les valeurs de la République. Et là, pour le coup, les commémorations se sont passées, le temps a passé, et puis là, on est dans la dernière page. Et moi, je suis contente parce que Jeanne a bien évolué, le reste de la famille a bien évolué, et l'entreprise, c'est le quotidien.
Aujourd'hui, vous êtes un couple de meufs épanouis, une famille épanouie. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui te tient très à cœur parce que ça fait partie de l'équilibre de l'entreprise aussi.
Oui, ça fait partie de l'équilibre parce que si l'un ou l'autre ne va pas bien, on sait que... Et puis les gens sont tellement habitués à... Alors ce mot que nos jeunes connaissent bien, ce mot « zapper ». Voilà, quand quelque chose nous ennuie, on zappe. Alors que c'est ce qui fait nos fondations avec Cyril, c'est ce qui nous maintient. On sait parler, on sait expliquer les choses. Il y a 2 heures, hein, on s'est bien engueulé. Et puis à un moment on part chacun dans notre coin. Et puis on revient, et puis voilà. On dit, bah maintenant t'es calmé, toi aussi. Et puis on rediscute, et puis c'est reparti. Mais ça, je pense que c'est ça, c'est nos vraies valeurs. Et c'est ce qui a fait aussi que la famille, elle est extrêmement soudée. L'entreprise, en fait, c'est notre grande famille. Et c'est le dialogue qui je pense, fait avancer la maison. La famille.
Les deux titres qui sont les vôtres vous permettent aussi aujourd'hui de voyager, de faire de très belles rencontres. Quelles sont les plus belles rencontres que tu aies pu faire depuis ce titre à travers le monde ?
Alors, la plus belle des rencontres, avant que j'endosse ma veste et ma médaille, Cyril a un coup de fil de Guillaume Gomez, qui était encore le chef de l'Élysée.
Et qui est aujourd'hui ambassadeur de la gastronomie française.
Exactement. Et c'est un très bel ambassadeur et c'est un ami aussi.
Et c'est un amoureux de l'Alsace.
Exactement. Et là, un coup de fil, il me dit, c'est un grand dîner officiel qui aura lieu à l'Élysée et c'était le président Xi Jinping et je voudrais que Christelle œuvre pour le plateau de fromage. Et là, grand moment. Tu te dis,
De solitude ou de...
Non, d'excitation.
D'accord.
D'excitation parce que tu prends conscience que t'es meilleur ouvrier de France. Très vite. D'autant plus que, pour plein de raisons, ils avaient changé les choses. J'avais pas le droit de mettre ma veste. Enfin bref, c'était des nouvelles règles. Et je dis à Guillaume, je peux pas mettre de veste. Tu sais qu'il faut attendre de passer à la Sorbonne. Il me dit non, tu dois représenter la République, les valeurs des meilleurs ouvriers de France, les valeurs de ton métier. Il me dit non, tu mets une veste. Et là, ça a juste été extraordinaire parce que la foudre, elle tombe rarement au même endroit. Et quand t'as une chance comme ça de qu'on te passe un coup de fil et qu'on te mette à disposition, non, c'est pas te mettre à disposition, c'est qu'on te donne la possibilité d'exprimer ton métier dans les plus hautes valeurs de la République et représenter ton pays. Je sais pas, il y a pas quelque chose de mieux. Et puis t'es tellement fier, tes clients sont fiers, ta famille est fière de ta réussite. Tes producteurs, parce que là, on a beaucoup mis en avant tous les producteurs à travers les interviews. Enfin, j'étais extrêmement fière.
Une autre belle rencontre ?
Alors, une autre belle rencontre, comme ça immédiatement, mais j'en ai tellement eu après, puis après, il y a eu ce stop du Covid, alors j'ai l'impression que... Autre belle rencontre. Après, j'ai eu ma première formation. Alors là, j'ai eu la peur de ma vie. Pire que mon mariage, pire que tout. C'est la première fois que je partais si loin avec des fromages dans mes valises et sans Cyril. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est très fort, qu'on est toujours ensemble. Quel que soit ce que l'on fait, on part. Soit il y en a un qui arrive avant, soit il y en a un qui repart après. Mais on est toujours à un moment donné sur les gros, sur les beaux projets, on est toujours ensemble.
C'est-à-dire qu'on te demande d'aller former des professionnels.
Des professionnels, des cuisiniers et des maîtres d'hôtel, des sommeliers à l'île Maurice.
À l'île Maurice, donc tu emmènes tes fromages dans ta malle, tu les sélectionnes pour cela, ça s'organise comment ça ?
Ça s'organise projet de fou. Alors je sélectionne déjà des fromages pour qu'eux les reçoivent par le biais de l'importation. Et je suis quelqu'un d'un petit peu prudent et où j'anticipe beaucoup les choses. Je suis un peu la prudente de la famille. Voilà, heureusement j'amène et je canalise. Et je me suis dit, si jamais eux n'ont pas de fromage, moi j'arrive là-bas, j'ai pas de fromage, je suis pas bien. Donc j'emmène les miens. Et puis je voulais surtout faire plaisir aussi, montrer à ces Mauriciens qui pourront peut-être pas venir en France, de dire voilà comment nous mangeons le fromage, faire des comparaisons. J'avais déjà bien combiné ma future formation, mais ma première formation. Je vous pouvez même pas vous imaginer quand je vois ces 30 personnes devant moi, eux sont dos à l'océan Indien, moi je suis face à eux, je regarde l'océan, je regarde mon écran, je tremblais, j'avais l'impression de repasser mon MOF. Alors que j'étais titrée, j'avais 25 ans d'expérience, même presque 30. Et là, j'avais l'impression que je venais de démarrer. Mais j'ai eu une peur monumentale. Et par contre, Alors j'ai pleuré quand je suis partie parce que c'est quand même une expédition. Je me suis arrêtée à Dubaï, après arrive à l'île Maurice. J'arrive dans un endroit que je ne connais pas du tout. Bon, heureusement, ils parlent pour une bonne partie français. C'est ce qui m'a facilité la vie. Et après, j'ai été tellement bien reçue. J'ai encore des contacts avec des élèves et des cuisiniers de là-bas, les ceux qui dirigent aussi l'hôtel. Mais qu'est-ce que j'ai pleuré quand je suis repartie? Parce que j'ai, franchement, ils m'ont chouchouté et je pense qu'ils n'ont pas forcément senti ma peur, mais ils m'ont vraiment bien adopté.
Et je crois que tu as voyagé avec quelqu'un également que tu aimes beaucoup, Freddie Mercury.
Alors Freddie, ah oui, bon sang. Oui. Ouais, c'est marrant parce que en fait, j'avais vu le film de sa vie sur un voyage précédent. Je sais plus où nous étions partis. Et puis, c'est un chanteur que j'aime beaucoup. Je trouve que voilà, la vie était un peu injuste avec lui. Et pour le coup, ses chansons étaient très profondes et j'ai tellement pleuré quand je suis partie. Je me suis dit, faut que je trouve un ancrage. Et cet ancrage s'est fait par rapport à à tout son album. Fou, là c'est fort, hein.
Et Christelle, justement, tu as beaucoup parlé de ta famille, de ta profession, de ta passion. Mais est-ce qu'il y a des moments qui sont des moments spéciaux, Christelle, où tu te prends du temps pour toi? Quels sont tes loisirs?
Alors, j'ai, à travers mes rencontres, encore une fois, cette soif d'apprendre, parce que par contre, ça s'est démultiplié. Après que j'ai eu mon titre, ben voilà, un grand vide, parce que mes filles, beaucoup plus grandes, parce que dans tout ça aussi, ce qu'on n'a pas parlé, mais j'ai quand même 4 filles.
C'est vrai. Grande famille.
Grande famille. De 28 à 15 ans, tous les 4 ans. Enfin voilà, c'était pas fait exprès, c'est très rythmé.
Et les 4 vous ont toujours suivis dans toutes vos aventures.
Exactement.
Vous êtes toujours présente derrière vous.
Exactement. Et puis là, dans quelques jours, on va pleurer parce que ma grande devient docteur. Enfin bref. C'est quelque chose où nous sommes très très fiers parce que on a su autant mener notre belle entreprise que notre famille. Et à côté de ça, à travers les rencontres, je suis dans plusieurs associations et j'ai une femme. Alors j'ai quelques femmes comme ça qui m'ont marquée. Il y a des femmes que j'aurais aimé rencontrer et Jacqueline Balzer, qui est la dirigeante de la boucherie Rédinger Balzer. Il y a quelques années en arrière, bon ça remonte à peu près il y a une dizaine d'années, elle me dit, Christelle, j'aimerais bien que tu rentres aux femmes chefs d'entreprise, au FCE, qui est une association qui est extrêmement riche et elle te permet d'aller dans d'autres horizons. Parce que le problème qu'on a dans la gastronomie ou dans les métiers comme ça très ancrés, on reste toujours entre nous. Alors c'est pas qu'on met des œillères, mais c'est naturel. On va toujours se diriger vers les choses qui nous permettent de nous sécuriser. Et là, pour le coup, Jacqueline, elle me permet de rentrer dans cette association et je rencontre des tas de parcours de femmes et je suis toujours adhérente de cette association aujourd'hui. Et là, c'est un peu mon moment d'évasion. Alors, j'ai beaucoup de mal à y aller sur les 2 dernières années parce que je suis aussi dans d'autres associations. Je suis plus la femme de l'extérieur maintenant que la femme de l'intérieur, alors que avant le titre de MOF, c'était plutôt le contraire. Et en plus, je détestais ça. Je n'allais jamais vers les journalistes, j'allais jamais à l'extérieur de ma maison, et c'était toujours Cyril qui était dehors. Et le jour où et Cyril a toujours dit, le jour où tu deviendras MOF, je prendrai ma retraite. Mais c'est pas retraite de dire j'arrête de travailler. Il m'a dit, je te laisserai aller devant. Parce qu'il était tellement fier, il m'a dit, non, mais je te laisserai aller devant. Et là, tout ça, à travers mon parcours, à travers mes expériences, a fait que je me suis sentie extrêmement à l'aise. Et je peux remercier justement toutes ces rencontres que j'ai, toutes ces associations, toutes ces femmes que j'ai rencontrées. Et je continue à me nourrir.
Finalement, il y a une Christelle d'avant le MOF et une Christelle d'après le MOF, dans laquelle tu as pris peut-être plus d'assurance. Tu as appris à être justement tourné vers l'extérieur. On le voit d'ailleurs sur vos réseaux sociaux, où vous êtes très présent. Les auditeurs, s'ils ont envie de te joindre ou de joindre Cyril, comment est-ce qu'ils peuvent faire?
Alors, si les auditeurs ont envie de nous joindre, alors on ne va pas diffuser notre numéro de téléphone.
Non, bien sûr.
Mais
vous avez un compte Instagram qui est
On a un compte LinkedIn, on a un compte Facebook, on a même plusieurs comptes Facebook.
C'est sur votre actualité, vos produits.
Exactement, parce que là aussi, on fait très attention. Il y a du privé sans être du privé, parce que j'ai ma page Facebook. Mais ce privé est toujours lié par rapport à la fromagerie, parce que nos clients, comme c'est notre entreprise est notre deuxième grande famille, moi, ils m'ont connue 4 fois enceinte, ils veulent avoir des nouvelles de la famille. Donc, de temps en temps, je mets des petits flashs comme ça, familial, sans être intrusive dans ma famille. Ça, je fais très attention parce que je l'ai toujours protégée. Et après, si on a envie de nous joindre, j'ai de très bons collaborateurs dans les 3 endroits, que ce soit les 2 magasins, que ce soit les caves. À ce moment-là, on peut vraiment nous joindre facilement. Le message remonte. On n'est absolument pas injoignable parce qu'on adore les gens, on adore discuter.
Sur les réseaux sociaux, c'est toi qui réponds directement?
Alors, des moments, je réponds. Des moments, parce que je me suis associée avec mon webmaster. On est 2 personnes. On est un binôme qui gère les réseaux sociaux, qui gère aussi les sites internet. Mais il y a des moments quand je vois que ce sont des messages qui me sont adressés. Oui, je réponds. Bien sûr.
C'est plus la touche Christelle que Cyril. Les réseaux sociaux.
Oui, parce que Cyril n'a pas forcément cru dans cette toile d'araignée qu'on a tissée à travers le digital. Et qui, au jour d'aujourd'hui, à travers toutes les rencontres que je fais, les études que je peux avoir, justement, ce sens de l'observation que l'on a tous les deux fait que, en regardant ce qui se passe, tu te dis, il faut qu'on dirige plutôt notre commerce de cette façon-là pour que demain on puisse perdurer. C'est pas parce qu'on est petit que tu sais rien faire.
Comment est-ce que tu vois le futur du commerce, justement, du commerce de proximité? Du commerce de qualité?
Alors, le commerce de qualité, je pense qu'il faut continuer la transparence qu'on a donnée. C'est montrer le savoir-faire parce que je pense qu'on a tellement galvaudé le travail. Les gens, on a peut-être honte de dire le mot travail. Et ça a été toujours nos valeurs. Donc, on aime bien montrer, expliquer, dévoiler la manière dont on travaille.
Le travail amène la compétence et la compétence amène à encore travailler plus.
Exactement. Et à travers ça, je pense qu'il y a une forme de confiance qui s'est créée avec nos clients, un lien fait que ça les rassure. Et je pense que le client de demain a besoin d'être rassuré. Et on le rassure à travers la toile. Il faut continuer ce chemin parce que une ville comme Strasbourg, par exemple, c'est 40% des gens qui changent tous les 5 ans. Donc, t'as beau être le meilleur, avoir une identité sur la place, dans 5 ans, la moitié de la population qui ne te connaît plus. Là, du coup, à travers justement tout ce digital, on arrive à tisser cette toile d'araignée pour pouvoir les ramener dans nos boutiques, que ce soit au centre-ville ou à l'extérieur. Et là, faut faire briller la piste aux étoiles. Alors, pourquoi je parle de piste aux étoiles? Parce que j'ai un mari qui est passionné de cirque. Et du coup, je trouve que c'est un bon terme. Parce que les clients, quand ils viennent chez nous, il faut qu'ils aient les yeux qui pétillent comme tu es devant un spectacle.
On parle de spectacle. Quel est le grand rêve de Christelle Leroux, finalement? Si tu avais encore un grand rêve, lequel serait-il?
D'avoir la tranquillité.
Mais c'est quoi, la tranquillité?
Non, mais j'irais de...
La tranquillité dans ton métier, la sérénité, tu...
Je dirais que les humains soient... je pense que c'est plutôt les humains, on est en train de perdre des valeurs. Et la parole. Quand je dis quelque chose, même si je me suis trompée, je le fais.
La bienveillance, c'est quoi pour toi, Christelle?
C'est se faire attention aux autres, les écouter. Notre façon de manager qu'on a toujours fait. L'un et l'autre, c'est d'ouvrir notre bureau. On n'a pas de bureau fermé. Rue des Orfèvres, il n'y a pas de porte à notre bureau. Et même si tu n'as pas toujours envie d'écouter les problèmes de tes collaborateurs, tu les écoutes et tu améliores ton management. Parce qu'on n'a pas appris à être manager. On n'a pas appris à être DRH. On a évolué avec le temps.
Merci Christelle Leroux pour cet entretien.
Merci, c'est pas facile, hein.
Merci à toi et belle route. Cet épisode vous a plu, merci beaucoup. N'hésitez donc pas à le partager, à en parler autour de vous. Merci également de noter 5 étoiles. Vous pouvez réagir directement également sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram, Twitter ou Facebook et sur mon site internet jeanrotner.com. À très bientôt.